Culture Sport, le lundi soir sur Attitude, dès 19h. Les résultats complets du week-end en région, présentés par Christian.
Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau Flash Résultat. On va parler des résultats du week-end avec du football, du rugby, du handball, du basket, du judo et du vélo. La totale, hein, ça, le sport a bien repris depuis le week-end dernier, donc on est plein pot. On va commencer par le football et la CFC qui avait un déplacement périlleux chez le leader Gol FC. Un match compliqué hein, pour les Angoumoisins, même s'ils se comportent plutôt bien à l'extérieur face au leader. Et puis dans une poule D de National 2 hyper homogène, hein, où il y a très peu d'écart en termes de points. Et la CFC a ramené un très bon match nul, 0-0. Un match finalement où les Angoumoisins ont subi, mais où les Angoumoisins ont plié sans jamais rompre, malgré l'expulsion à la 55e minute de Johan Marmot pour deux cartons jaunes. Angoulême ramène un très bon match nul, donc 0-0. Au niveau des autres résultats, Bergerac perd à domicile contre les Herbiers 1-0. Chamalières perd également à domicile contre Nantes 2-1. Trélissac et Andrézieux font 0-0. Gol FC et l'ACFC font également 0-0. Bourges gagne à Romorantin 1-0. Lorient gagne à Saumur 3-0. Vierzon gagne au Stade Bordelais 2-1. Et enfin, Moulins-Yzeure gagne contre Angers 3-0. Au classement, eh bien, le classement se resserre davantage puisque les 4 derniers ont gagné. Et donc, ce qui fait que entre le 6e Romorantin et le 15e Nantes, il n'y a que 4 points d'écart. Donc, la course pour le maintien est plus folle que jamais. En tête, Gol FC est toujours premier avec 33 points. Deuxième, les Herbiers, 30 points. Troisième, Bergerac, 29 points. La CFC, donc, est dans le gros paquet, dans le gros peloton. 7e avec 21 points. Mais les Angoumoisins comptent un match en retard à disputer contre Chamalières dans 2 week-ends. La prochaine réception des Angoumoisins, ce sera samedi prochain au Stade Lebon à 18h avec la réception de Moulins Yzeure Foot. Un match hyper important pour les Angoumoisins qui compte un point d'avance sur les Auvergnats. L'occasion également pour les Angoumoisins de retrouver Mourad Alouache. Mourad Alouache qui a passé 2 saisons à la CFC. On va parler de foot régional avec la Coupe de Nouvelle-Aquitaine avec 2 équipes qui étaient encore en lice du côté charentais. La première, c'est Cognac. Cognac qui se déplaçait à Arsac-Lepian, une régionale 3. Score final 0-0, qualification penalty pour les hommes d'Alvin Henry qui du coup vont en 16e de finale. Et la deuxième équipe, c'était normalement la réserve de la CFC, mais finalement les Angoumoisins ont eu match perdu sur tapis vert, ce qui fait que Ruffec a joué contre Saint-Médard-en-Jalles et les hommes de Johan Lesquilleux ont fait bonne figure hein, puisqu'ils ne perdent que 4-3 en ouvrant rapidement le score par Touraine et finalement défaite 4-3 malheureusement pour les Diables Rouges, donc qui laisse Cognac en 16e de finale. Donc Cognac sera notre dernier représentant en coupe régionale, donc on attendra de voir le tirage contre Boire, contre qui ils vont jouer. Au niveau régional, quelques matchs en retard, notamment en régional 2, en poule B. La victoire de Charente-Limousine 1-0 contre Mignaloux-Beauvoir et malheureusement la défaite de Merpin contre Migné-Auxances 2-0. Au classement, Charente-Limousine est 5e, Merpin est 9e. En Régional 3 également, quelques matchs en retard. La défaite de Ruel du côté de Ribérac 1-0. La défaite de Soyaux à Vindel dans le derby du week-end 2-1. Et la défaite également de Puymoyen 3-1 du côté de Verneuil-sur-Vienne. Une poule toujours dominé par Saint-Alex qui est premier. On a donc Soyaux qui est 6e, Vindel qui est 5e, Puymoyen 8e et Ruel 11e. En poule G également, un match en retard côté Charentais, l'Alliance 3B qui s'impose contre Saint-Loubès 2-1. Les hommes d'Adnan El Archi sont toujours en tête, 34 points, 10 points d'avance sur le deuxième. En 12 matchs, ils ont gagné 11 matchs et fait un match nul, 44 buts marqués, 7 encaissés. Des chiffres assez impressionnants pour l'Alliance 3B. En première division de district, 2 matchs en retard également. La victoire de La Couronne 4-3 du côté de Roulé, avec notamment le triplé d'Alexis Le Gaufre. Et la victoire de Champigny 4-1 contre les Portugais du Gond. Au classement, ce qui permet à Champigny de revenir hein, à hauteur, de dépasser même Basso. Et donc Champigny revient à la deuxième place du côté maintien. Bonne opération pour La Couronne qui creuse l'écart sur Roulé, puisque La Couronne compte désormais 4 points d'avance sur le FC Roulé. En D2, 3 matchs en retard. Victoire de Chasseneuil 2-1 dans le temps additionnel contre Verdi. Victoire de Saint-Arix 3-0 contre Montbron. Et enfin en poule B, Chazelle. Chazelle signe sa première victoire de la saison en battant Montmoreau 2-0. Il y avait aussi de la D1 Arkema du côté du stade Léo Lagrange où l'AJ Soyaux recevait Fleury. Victoire 4-0 des Franciliennes. Un match où l'AJ aura tenu pratiquement toute la première mi-temps puisque Fleury va marquer dans le temps additionnel, va marquer 2 buts même dans le temps additionnel, si bien qu'à 2-0, l'histoire était compliquée pour Soyaux, et donc malheureusement, c'est une nouvelle défaite pour les filles de Michel Bradaya. Au niveau des autres résultats, Montpellier a battu Bordeaux 2-0, donc Fleury a battu Soyaux 4-0, Paris FC bat Dijon 2-0, Guingamp bat Reims 2-0, Lyon bat Rodez 5-0, et enfin le Paris Saint-Germain bat Le Havre 3-1. Au classement, Lyon est en tête avec 37 points devant le PSG, 36 points. Et malheureusement, la mauvaise opération pour Soyo, puisque Soyo, avec 5 points au compteur, compte désormais 6 unités de retard sur Guingamp et sur Dijon. Le maintien va être compliqué à obtenir. Et d'ailleurs, le prochain match, le week-end prochain, un match en retard à Rodez. Donc Rodez et Soyo qui sont tous les deux dernières. Donc eh bien sur ce match-là, malheur vaincu. Je dirais même qu'un match nul ne fera l'affaire de personne. Donc pour que Soyo ou pour que Rodez ait encore un espoir de maintien, eh bien il faudra qu'une des deux équipes l'emporte. Et forcément, on espère que ce sera l'ASJ Soyo. On va parler de rugby désormais avec la défaite donc du SA15 à Béziers 22-13. On a vérifié ce résultat dans le SA15 Mag Attitude. La victoire de l'UBJ, Barbezieux-Jonzac, contre Nantes 28-26. C'est vraiment une très belle victoire pour les unionistes qui ont souffert jusqu'à la dernière seconde mais qui empochent une victoire hyper importante. En handball, match nul de l'ETEC à Iri-Sartarac. Je l'ai bien prononcé pour une fois. Match nul 24 partout. C'est plutôt un bon résultat. C'est compliqué d'aller gagner là-bas. Donc un bon résultat pour l'ETEC. L'ETEC qui est deuxième au classement avec un point de retard sur Bruges. En National 1 féminine, malheureusement un mauvais week-end pour les Charentaises puisque dans le match des extrêmes, Cognac s'incline lourdement à Pessac 35-13. Et malheureusement, là c'est CH s'incline à domicile contre La Roche-sur-Yon 25-27. Un mauvais résultat pour la CH qui est 6ème au classement avec 28 points. Une poule hyper serrée, c'est seulement 4 points d'avance sur le 11ème. Cognac malheureusement est 13ème avec 14 points. En basket, exploit des Couronnaises du côté de Boigny en National 3 féminine, victoire de la Couronne Basket 62-50, un résultat qui relance complètement les Couronnaises dans la course au maintien puisque les Couronnaises comptent désormais 20 points, 5 victoires, 10 défaites, et c'est seulement donc une défaite de plus et une victoire de moins que les Herbiers ou que Smash Vendée. Donc la course au maintien se poursuit pour les Couronnaises. En pré-national masculine maintenant, la CTSI Grand Cognac se déplaçait à Poitiers. Victoire des Cognacés 78-53. Cognac qui est toujours en tête de sa poule à égalité avec Étré et avec la réserve du CSP Limoges. Et bien la course à l'accession en National 3 se poursuit pour les hommes de Loïc Arami. Le résultat date d'il y a quelques jours, mais on va parler de Julie Pierret en judo qui s'était déplacée en Belgique pour faire une European Cup du côté de Visé. Julie Pierret termine deuxième de cette compétition en moins de 78 kg. Deux autres couronnés étaient également du voyage. Morgan Arthuis n'est pas classé en moins de 57 kg et Diego Digdat n'est pas classé en moins de 90 kg. C'est un résultat du week-end dernier, mais comme on ne l'avait pas annoncé la semaine dernière, je l'annonce aujourd'hui. Et on va terminer par du vélo avec donc la reprise des courses pour le top 16 avec deux épreuves de l'essor basque. Tout d'abord les boucles de l'essor où on a vu Lilian Langella se mettre en évidence. Lilian termine 23e pour le top 16. Et le dimanche, deuxième course, le circuit de l'essor avec la très belle troisième place de Louis Lapierre. Louis Lapierre, le sprinter de l'Ocean Top 16, qui doit s'incliner contre Baptiste Vadic et Luca Boniface, les deux coureurs devant des U. Mais c'est une super troisième place pour l'Ocean Top 16, donc premier podium pour les Charentais au bout de la deuxième course. C'est plutôt encourageant pour la suite. Et on va terminer par du tennis de table avec le TTGF qui recevait le SU Agen en National 2, c'était la deuxième journée de leur championnat, et victoire du TTGF contre Agen, donc une bonne opération en vue du maintien. On retrouve tout de suite le président du club de Nersac Cyclisme dans Culture Sport, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Flash Résultat. Bonne soirée, au revoir.
Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Hello tout le monde, vous êtes bien sur le 98.3 et 90.7, c'est Attitude, votre radio, www.attitudefm.com. C'est votre émission Culture Sport, chaque lundi 19h-20h30. Bienvenue, merci de suivre avec nous cette émission. Nous accueillons aujourd'hui Mathieu Dufour, président du VC Nersac, qui répondra aux questions de Dédé et de Christian qui sont là. Dédé, bonjour.
Salut Didier, salut Christian et bonsoir Mathieu et salut les auditeurs.
Salut Christian, bienvenue.
Bonsoir à tous.
Mathieu, merci d'avoir accepté si rapidement notre invitation, c'est gentil à vous. Donc on va passer ensemble pendant une heure. Bienvenue Mathieu.
Merci à vous de m'accueillir. Bonsoir à tous.
Président du VC Nersac, on va vous laisser entre les mains d'un concitoyen. C'est Dédé à qui je souhaite de bien traverser cette émission et de vous poser la première question.
Allez, notamment sur le fait que tu es devenu président il y a quelques mois, je dirais même que peut-être 2 ans ou 3 ans au maximum. Et comment tu es venu, notamment dans ce sport qui est assez difficile, et prendre des responsabilités avec notamment l'activité professionnelle que tu as?
Oui, alors j'ai pris la présidence janvier 2022. Donc moi je suis dans un peu dans le vélo, c'est un peu une histoire de famille. J'ai mon cousin qui court en National 3, mon oncle aussi, mon père en faisait. Enfin voilà, c'est vraiment une histoire de famille. Après l'histoire des responsabilités, c'est un peu un côté que j'ai au boulot. J'aime avoir des responsabilités, aller de l'avant, faire grandir les choses, on va dire. Donc c'est pour ça en fait à Nersac la place s'est un peu libérée comme ça, hein. Raymond Payot voulait passer la main. Elle avait prévenu, donc moi je me suis porté présent pour ça. C'est un challenge parce que actuellement le vélo, on va pas dire qu'il est dans la meilleure des situations, mais j'y crois beaucoup. J'ai plein de projets en tête et notamment notre épreuve de l'ascension. Il est en train sincèrement de monter en puissance, donc on en reparlera après.
Pour revenir peut-être sur la saison passée où on a des coureurs qui plus ou moins ont participé au niveau national. Je parle notamment des frères Fievez qui sont dans le top 16. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ces deux garçons et puis d'autres aussi?
Oui. Alors donc oui, comme tu le disais, on a deux coureurs qui font partie de l'Océan Top 16. Rudy Fievez qui continue encore cette année, certainement pour sa dernière saison à ce niveau-là. Et Jordan Fievez, qui a couru aussi chez nous plusieurs saisons. Jordan Fievez qui a mis un terme à l'Océan Top 16, donc qui est parti vers de nouvelles aventures en Dordogne. Donc Rudy, c'est un coureur qui court au plus haut niveau amateur, hein, qui fait pas mal de place, c'est un très bon coureur, un gentil garçon, enfin quelqu'un en or, qui vient tout justement à être papa. Donc ça c'était nos deux coureurs un peu élites et après voilà on est aussi sur le front au niveau amateur mais amateur de personnes qui travaillent on va dire donc on a plusieurs coureurs en UFOLEP et en FFC et cette année une nouveauté, on a un nouveau licencié du coup pour remplacer Jordan Fievez au top 16, donc c'est Karetan Wazowicz, un jeune polonais qui est champion de Pologne junior en titre. Donc, il vient d'intégrer l'Océan Top 16 et par la même occasion, la CNRSA.
D'ailleurs, comment ça se passe au niveau du Top 16 lorsqu'il y a des nouvelles recrues? C'est des coureurs qui appartiennent, enfin, qui font partie de l'équipe du Top 16, mais qui sont licenciés dans les clubs charentais. Comment on se dispatche les coureurs, les différents clubs charentais?
Alors, on fait une réunion, hein, en fait. On a une petite réunion pour voir un peu, justement, l'effectif, savoir combien de coureurs peuvent être intégrés dans chaque club. C'est en fonction des bilans qui ont été faits, on peut pas forcément prendre autant de coureurs qu'on l'aimerait. Et après, ça se fait un peu aussi par affinité, en fait. Certains connaissent déjà certains coureurs de la famille, tout ça. Donc, ça se fait un peu comme ça. Et nous, pour en revenir, parce que c'est un sujet aussi, hein, comme le polonais, en fait, on a toujours eu un lien très particulier avec les coureurs arrivant de Pologne à Nersac. On a toujours été le club accueillant ces coureurs-là. Et on en garde de très très bons souvenirs dans les archives. Donc c'est pour ça, je me suis porté garant de prendre une licence pour ce jeune coureur talentueux.
Quel âge a-t-il, Mathieu?
Eh bien, il a tout juste 18 ans.
Ah oui, et junior?
Oui, junior, il est champion de Pologne en titre, là, actuellement.
C'est quelle catégorie de coureur? Plutôt rouleur, plutôt grimpeur, plutôt sprinter, plutôt puncher?
Il est un peu, je dirais, puncher.
Voilà, d'accord. Il aura un joli maître de conférence avec Rudy Fievez, du coup.
Oui, voilà. Ça va être un très beau duo, je pense. Ils ont déjà fait un premier stage ce week-end. Et puis, on les retrouvera sur le tour du Pays Basque pour les premières courses.
Ces deux coureurs-là, ou alors, enfin, auparavant, du coup, les frères Fievez, c'est des coureurs que vous voyez souvent au club de Nersac, enfin, où il y a quand même un lien, même si eux font forcément du haut niveau. Est-ce qu'il y a un lien, du coup, quand même, qui se crée entre ces coureurs-là et le club?
Ils ont un planning assez chargé à un niveau course. Moi, mon objectif, c'est de rétablir vraiment un plus gros lien avec ces coureurs-là. J'aimerais qu'on ait plus de rencontres avec nos adhérents. Après, ce jeune coureur qui vient d'arriver, donc Karetan, il est hébergé chez Stéphane Beauchaud, le président du top 16. Et donc, c'est à 4 km de chez moi, donc ça va être l'occasion de se voir régulièrement, je pense.
Il a quelques notions de français ou il est en train de, il va commencer à apprendre?
Il va commencer à apprendre. Pour l'instant, bon. C'est en anglais.
Bon, bah, je lui transmettrai quelques playlists polonaises alors que j'écoute pas mal de musique polonaise.
Parfait.
Comment l'ERSAC fait pour notamment avoir des filières comme ça polonaises? Ça date depuis combien de temps Et quand on connaît le passé, évidemment, des anciens dirigeants qui ont géré cette association depuis de nombreuses années, est-ce que les relations, toi qui les as pris en cours, ont été quand même assez compliquées?
Non, en fait, bah, tout se fait par le lien de Stéphane Beauchot. En fait, cette filière polonaise, on va dire, vient d'un coureur qui était passé à l'Océan Top 16 et qui a justement été là-bas après en Pologne, qui en a entraîné. Enfin, c'est un peu notre recruteur, en fait. On a une personne un peu basée en Pologne qui est un peu recruteur pour le Top 16, on va dire.
J'en reviens juste sur donc cette réunion où finalement les différents clubs se partagent des coureurs. J'imagine que ça, du coup, ça, le fait qu'il y ait le Top 16 au milieu et tous les clubs autour, ça doit vous fédérer. Comment ça se passe avec les autres clubs?
Ouais, ça se passe très bien. Bah, alors moi, j'ai découvert ça du coup l'année dernière, hein, ces réunions-là. Oui, justement, c'est des échanges bénéfiques parce qu'on discute vraiment. Entre copains, on s'échange des bons conseils. Enfin, c'est vraiment une bonne entente, hein, qui se fait entre ces clubs-là. Et on est là pour aider, en fait. Hein,
Vous êtes plus partenaire que concurrent.
Voilà, c'est ça. Enfin, on voit pas ça comme de la concurrence, hein, dans le vélo. Certes, on aimerait tous avoir beaucoup d'adhérents. Enfin, bon, après, quelquefois, ça pourrait être négatif, mais c'est pas de la concurrence. C'est vraiment de l'entraide. On est là pour faire tourner, spécifiquement le top 16, parce que sans les clubs charentais, le top 16 n'aurait
bien
pas
sûr,
ses coureurs.
De toute façon, la base, c'est toujours la base de la pyramide, au final. On part toujours du monde amateur.
Oui, voilà. Tout à fait. Donc, en fait, tout se passe très bien et moi, je prends plaisir à aller dans ces moments-là.
Donc, réunion, du coup, pour ces coureurs-là. Est-ce qu'il y a aussi des réunions entre vous pour les organisations que vous faites dans le département pour finalement que toutes ces courses qui sont organisées en Charente ne soient pas sur les mêmes week-ends? Est-ce que vous arrivez à vous coordonner tous les clubs en Charente?
Oui, oui, tout à fait. Il y a un planning qui est établi, hein, avant le début de saison, avant le dévoilement du calendrier. Où voilà, on a une candidature, hein, pour nos épreuves, et après voilà, on va savoir si on tombe en face de quelqu'un d'autre ou pas, et on se met d'accord avec le club qui organise notre épreuve, et puis voilà, enfin c'est tout se passe bien quoi.
Peut-on connaître le nombre de clubs qui est parmi eux maintenant des coureurs du top 16?
Alors là, je saurais pas répondre là comme ça. Je sais qu'il y en a faut un minimum de 16 coureurs, si je me trompe pas, pour que le top 16 puisse continuer à ce niveau-là. Donc après, le nombre de clubs, non, je ne saurais pas vous le dire, je suis désolé.
D'accord.
Mais après, ça varie, hein. Certains clubs ont un coureur, d'autres en ont jusque 3, 4, voire 5, je crois, à La Rochefoucauld. Après, voilà, c'est en fonction des moyens, hein, parce que on prend à charge certains frais, ce n'est pas non plus exorbitant, hein. Contrairement à l'image que ça donne quand même de notre club, parce qu'il court quand même avec nos couleurs quelquefois dans l'année. Donc
oui, tout à fait. Mais les courses, les finalement, où ils sont. J'imagine que c'est toutes les courses où il n'y a pas de DN1, enfin, sauf peut-être les Sorbas, enfin, toutes les courses finalement où ils ne sont pas engagés sous le nom de top 16. Hein.
Oui, voilà, c'est ça. Toutes les autres courses, ils portent le maillot du club où ils adhèrent. Oui, tout à fait.
On peut peut-être revenir, Mathieu, sur ta première année où il y a eu cette épreuve nationale junior qui s'est déroulée dans d'excellentes conditions. On peut faire un petit bilan sur cette épreuve qui a attiré encore un plateau exceptionnel.
Oui, tout à fait. Alors on sortait, ben, comme tout le monde le sait, du Covid, donc on a eu 50 partants. On s'attendait un petit peu plus, mais on est extrêmement content de l'organisation, de tous les bénévoles qui ont été présents. Tout s'est déroulé à merveille. On a eu des retours très très positifs, sortie de course. Hein. Même les coureurs eux-mêmes venaient nous remercier parce qu'une sécurité irréprochable. Hein. On a 80 bénévoles quand même sur cette journée. Tous les carrefours, les petits chemins, il y a un signaleur partout pour éviter la voiture à contresens, tous les petits désagréments qui pourraient entacher cette course. Donc c'était une réussite sur l'organisation qui nous a fait remettre à notre place, on va dire. Et du coup, cette année, je peux déjà vous dire qu'on a plus de partants qui sont engagés que l'année dernière.
Vous écoutez Attitude, vous êtes bien sur le 98.3, 90.7, www.attitudefm.com. Merci de votre fidélité. Nous retrouvons nos invités en studio, Mathieu Dufour, qui répond aux questions de Dédé et de Christian. C'est à vous, messieurs.
Alors que la saison n'a pas commencé, déjà, on...
Voilà, c'est ça.
Ouais. On a... C'est bien, ça veut dire que le bouche à oreille a fonctionné.
Le bouche à oreille, et après, c'est un travail en aval, grâce à Michel Coudray, Bruno Soula, des contacts de clubs. On est au charbon depuis presque bientôt 3 mois pour cette épreuve. On les contacte un à un. Il faut savoir que c'est du temps à passer quand même. Les bénévoles, là, je les remercierai jamais assez. On les contacte, on leur montre un peu ce qu'on sait faire, ce qu'on a déjà fait par le passé. Et du coup, on a des retours d'équipe des quatre coins de la France, là, je peux vous le dire, oui.
Si je me trompe pas, du coup, on parle bien de l'ancien Grand Prix de l'Ascension. Qu'est-ce qui justement vous a fait passer du monde senior au monde des cadets? Qu'est-ce qui
Ça a été fait un peu avant mon arrivée. C'est que la place à la jeunesse, tout le monde se pose la question parce que on a beaucoup de jeunes qui ont envie de mordre au vélo. Et la catégorie senior était un peu en déclin, si je peux me permettre, un peu en déclin. Et du coup, voilà, ils ont misé sur la jeunesse. Moi, j'en suis content parce que bah, ça va être bénéfique cette année. Moi, je vous promets un grand spectacle. J'ai déjà hâte. Parce que là, on va avoir de la belle compétition. Ouais.
Pour poursuivre, Mathieu, sur le fait que d'accueillir les jeunes, est-ce que ça fait progresser notamment les jeunes à venir dans cette activité au niveau du club de Nersa?
Je pourrais pas donner de retour comme ça à motiver les jeunes à venir à Nersac. On n'a pas, l'année dernière, on l'a pu le remarquer, on n'avait que 3 Charentais au départ de l'épreuve.
Oui.
Ah oui, seulement.
Voilà. Il y a tout un contexte qui fait que voilà, ça ne m'attire pas de la pub, des adhérents juniors, mais la notoriété d'organisation, enfin tout ce qui est autour de l'organisation, enfin là on démontre ce qu'on sait faire et moi c'est ce qui m'anime là actuellement. Oui.
Comment on peut expliquer que sur 50 partants il y a que 3 Charentais au final? Est-ce que ces jeunes-là étaient sur d'autres courses ou au final il y a de moins en moins de jeunes qui font du vélo?
Alors je pense que il y a des jeunes qui font du vélo. On a quand même sur le niveau national.
Ah oui, d'accord. Ça,
faut pas l'oublier. C'est une course qui s'est courue à plus de 41 de moyenne sur 120 km avec notre célèbre code du peu. Hein. Donc c'est assez intense. Hein. Donc faut avoir un niveau, un très bon niveau quand même pour courir sur ce circuit. Oui.
Et est-ce que nos Charentais leur sont illustrés l'an dernier? Est-ce qu'on en attend plus cette année?
On en attend plus cette année. On est en train d'en contacter quelques-uns. Oui, on en aurait plus, au moins le double de l'année dernière, ça c'est sûr.
D'accord, et c'est sinon, comme une erreur.
On en a retrouvé un qui a lâché dans le final l'année dernière, c'est dommage. Ça a été une très belle course l'année dernière. Hein. Tu peux le confirmer, ça a été du spectacle jusqu'à la fin. Même avec 50 partants, on avait l'impression que c'était une course de 150 partants à l'arrivée parce que on avait quand même un beau paquet à l'arrivée et ils se sont battus jusqu'à la fin. On savait pas qui allait gagner à un tour de l'arrivée.
On peut rappeler combien de tours de circuit, combien de kilomètres faisait cette course?
Oui, alors c'est un circuit de 11 km 900 et ils le font 10 fois.
D'accord, donc ça fait
119 km, ouais.
Ce qui est déjà pas mal.
Oui, c'est une épreuve qui s'est déroulée comme tu le disais, Mathieu, a une moyenne de 41 km. Et le suspense, c'est vrai qu'il a duré jusque dans la dernière difficulté. Et c'est vrai également que cette jeunesse qui, aujourd'hui, pour certains d'entre eux, côtoie les rangs professionnels, puisqu'on avait notamment, pour être plus précis, on avait des jeunes qui venaient de Direct Energy, c'est-à-dire Vendée U, et qui ont fait aussi le spectacle, et puis Oxygène Creuse hein, qui était là. Et c'est vrai qu'au niveau du département de la Charente, ben on était quand même, je dirais, pauvres, excepté que le jeune garçon de la couronne, hein, je me rappelle pas son nom, qui a été brillant, parce que je pense qu'il termine dans le top 15. Et c'est vrai qu'au niveau des jeunes, c'est ce qui nous manque, je pense, au niveau du département, Mathieu. Et ce qui manque également, peut-être, sur la commune, et s'il y a des projets, pourquoi pas remettre non plus la course des cadets minimes qui a attiré plus de 100 compétiteurs dans cette fameuse ascension de la Côte du Peu.
Oui, alors ça, ça a été mon choix de la retirer parce que c'est du temps, c'est des bénévoles à mobiliser. On a préféré mettre pour ma première année et du coup cette nouvelle année aussi, le paquet sur notre épreuve parce qu'on a une petite nouveauté aussi sur cette journée-là, on en reparlera après. Mais je suis d'accord avec cette question de la jeunesse. J'ai un souhait, Est-ce que ça va se réaliser, je l'espère, de monter une école de vélo à Nersac?
Qui dit école de vélo dit forcément encadrant et surtout jeune.
Voilà, tout à fait. C'est un travail de, c'est en réflexion. Hein. Moi, je vais tout faire pour. Bien sûr, va falloir voilà des encadrants les jours où il y aura les activités vélo. Et je pense que des jeunes, il y en aura, parce que on le voit hein, sur d'autres clubs qui ont des écoles de vélo. Les jeunes, je vais dire jusqu'à 13-14 ans, il y en a énormément et tout le monde peut s'y intéresser. Après, voilà, ça, ce qui va se faire, c'est qu'ils vont accrocher ou non à ce sport, qui est exigeant, hein, parce qu'il faut s'entraîner. Il y a la question de sécurité, mais ça, on va plus rentrer dans ce débat-là. Mais il y a plein de choses qui font que les jeunes, faut réussir à vraiment les faire mordre l'hameçon. Et moi, j'y crois et on va mettre ça en place. Alors, on se laisse du temps parce que c'est, voilà, il faut trouver du monde, il faut plein de choses comme ça. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie.
En cyclisme, moi, je suis plus footeux. C'est vrai que la Fédération française de football, dans les écoles de football, elle met des labels, il y a des critères à respecter. Comment ça se passe dans le cyclisme? Est-ce qu'il y a aussi un cahier des charges à respecter? Et si oui, quel est-il?
Oui, il y a un label école de vélo délivré par la Fédération française. Voilà, il y a plusieurs petits critères à cocher. Je me suis pas penché exactement sur ces critères-là. Pour l'instant, c'est un peu plus comment se structurer, avoir qui pourrait encadrer. Mais oui, bien sûr, il y a un label qu'on espère avoir pour ouvrir cette école de vélo à Nersac.
D'ailleurs, des écoles de vélo en Charente, il y en a beaucoup?
Oh, oui, il y en a quelques-unes. Hein. Il y a la Couronne, la Rochefoucauld qui fonctionne très bien. Il y a Mans, enfin, il y en a beaucoup, oui.
Également, qu'on a au niveau du département et du top 16, Arthur Beauchaud qui fait un gros travail. Hein. Je pense qu'il fait du travail un petit peu dans tous les clubs.
Ah oui, tout à fait.
Et puis dans les écoles aussi, il me semble.
Oui.
Ça c'est oui le comité du coup avec une nouvelle salariée, il se déplace voilà dans les écoles avec la remorque, tous les vélos, enfin voilà, parce qu'il y a le savoir rouler dans les écoles. Donc ça voilà, c'est aussi ça, c'est la première approche du vélo. Et puis après voilà, faut qu'on ait justement ce qu'il faut sur la commune pour bah voilà, si l'enfant s'y plaît dans cette activité là, bah voilà, il puisse s'inscrire et puis après continuer en compétition ou non. Enfin, on est ouvert à tout. Enfin, on n'est pas obligé de faire la compétition à vélo. Il y a aussi le vélo plaisir. Ça, moi, je veux qu'on soit ouvert à tout. C'est Nersac.
Il y a combien d'activités donc au sein de la Nersac, à part les épreuves sur route, et quel est le bureau et le conseil d'administration qui prend les décisions?
Eh ben, on est une quinzaine à peu près à prendre les décisions au conseil d'administration. Après, voilà, on se fait des petits groupes de travail. Pour chaque dossier. Donc on est 4-5 là sur le dossier national junior. Et après voilà 3-4 pour notre nouveauté du matin de la nationale junior. Voilà, on se dispatche un peu tous le boulot pour que tout le monde en ait un petit peu et qu'on avance tous ensemble.
Sur l'ensemble de vos adhérents, à peu près quelle tranche ou quel pourcentage de vos adhérents fait de la compétition? Est-ce que c'est une minorité ou une majorité?
La situation actuelle que l'on a, c'est plus une minorité qui fait de la compétition.
Il y a quand même, j'imagine, des sorties, alors pas forcément d'entraînement, mais en tout cas des sorties pour rouler ensemble qui sont organisées.
Oui, tout à fait, oui, on essaye d'en organiser. Après, il faut qu'on tombe un peu chacun à sa vie hein, le week-end, donc on essaye de tomber un peu quand personne n'a rien de prévu. Voilà, on se fait une petite sortie vélo, ou même après, si les adhérents veulent rouler entre eux, voilà, ils peuvent. Hein. On n'est pas toujours obligé d'être tous ensemble, mais on essaye justement d'en avoir quand même des sorties un peu, on va dire, de cohésion, quoi.
C'est pas forcé que ce soit formel au final. Les adhérents qui ont des affinités entre eux peuvent aller rouler de leur propre initiative au final.
Tout à fait. Ils peuvent aller très bien le mercredi après-midi faire leur petite sortie entre eux, et puis bah le samedi on roule tous ensemble avec les compétiteurs, les non-compétiteurs. Ce qu'on faisait à une période, voilà, on partait tous ensemble. Et puis après, voilà, le groupe course changeait de circuit, changeait de rythme, et puis on se retrouvait tous à la fin de l'entraînement.
Messieurs, je vous cède la parole par rapport à la prévention. On sait que le club de Nersac est très engagé avec Michel, qu'on avait reçu dans les studios à plusieurs reprises. Donc je vous laisse vraiment la parole pour vraiment faire la promotion de de cette prévention qui est hyper importante. Alors, je sais pas si c'est Dédé qui va en parler en premier, mais c'est important de parler de cette prévention et d'en parler encore et encore.
Tu as tout à fait raison. C'est très important, la sécurité. Surtout que depuis maintenant quelques années, il y a pas mal de compétiteurs, soit ceux qui s'entraînent, qui malheureusement sont victimes d'accidents meurtriers. Et c'est vrai qu'il y a une association, et je pense que Mathieu s'est investi avec Michel Crouzet, et il va nous en parler parce que c'est très important.
Oui, tout à fait. Donc, Une Route pour Tous, ça, c'est un projet mené surtout par Michel. Hein. Moi, je suis là aussi pour le soutenir et divulguer aussi un peu cette image qui veut donner de la sécurité. Ils seront présents sur les nouveaux équipements qu'on fait refaire. Nous, on met un point d'ordre à respecter toutes ces mesures de sécurité, donc c'est-à-dire jamais plus de 2 de front. On essaie de limiter, pas être au-dessus de 10 dans un groupe. Si on peut, on met la voiture suiveuse. Un vrai respect du code de la route. On s'arrête au stop, au feu rouge. Ça, c'est important aussi d'y mettre une autre. Hein. C'est pas que la faute des automobilistes. Hein. C'est la route se partage. Et voilà, c'est comme ça, en faisant tous des efforts, qu'on va y arriver. Enfin, c'est pas parce qu'une voiture va s'écarter de 50 cm de plus ou 1 mètre, ça va être un drame, ou s'il doit attendre 10 secondes, c'est pas grave non plus. Enfin, voilà, faut vraiment qu'on cohabite sur la route, et ça, Michel a mené une belle action avec Une Route pour Tous, et moi, je serai toujours derrière pour avoir cette image-là au club.
On l'avait reçu il y a quelques années maintenant, c'est vrai que c'est une initiative qui est lancée depuis pas mal de temps. Il nous disait que c'était une initiative charentaise et que ça avait un peu de mal à prendre dans les autres départements. Alors, est-ce qu'avec le temps, vous ressentez vraiment, alors c'est un vous collectif bien sûr, hein, est-ce que vous ressentez le fait que les gens sont de plus en plus sensibilisés, peut-être que ça a pris aussi dans d'autres départements, enfin quel est un peu, est-ce qu'il y a eu des avancées par rapport à cette belle initiative?
Moi, ce que j'ai pu constater sur les routes, c'est que de plus en plus de cyclistes utilisent leur lumière clignotante à l'arrière de leur vélo. Je trouve ça déjà un très bon point, parce que certains s'entraînent avec des vêtements un peu foncés qu'on ne peut pas forcément distinguer, avec un peu d'ombre. Et ça, je trouve que là-dessus, tout le monde a maintenant sa petite lumière clignotante derrière. Beaucoup essayent aussi d'avoir un petit gilet fluo. Enfin, moi, je vois quand même que ça change. Et puis le 2 de front, ça, c'est, on le voit sur tous les groupes. Hein, ils sont que 2 de front, ouais. Et puis ils n'occupent pas toute la route. Hein.
Ouais, au final, c'est des petits gestes, c'est des petites habitudes à apprendre, mais c'est des habitudes et des gestes qui peuvent sauver des vies.
Oui, tout à fait. Nous, notre but, c'est pas de finir à l'hôpital quand on part sur notre vélo. Hein, c'est de rentrer en ville, d'être content d'avoir fait notre sortie. Ensemble, donc c'est important que tout le monde fasse attention, je pense.
Oui, puis ce qu'il faut dire, c'est que aussi le département a joué le jeu, hein, puisqu'il y a les panneaux maintenant, Une Route pour Tous, un panneau vert avec la distance précisée sur ces panneaux, et c'est vrai que le département de la Charente a fait un gros travail. Alors c'est vrai que pour ceux qui sortent du département de la Charente, bien les panneaux, malheureusement, je n'en vois pas beaucoup dans le département de la Charente-Maritime, dans la Vienne, enfin dans le reste des départements, je n'en vois pas. Donc Michel a beaucoup travaillé, notamment en faisant le tour du Poitou-Charente avec Alain Chloé. Ça a été aussi de voir un petit peu que la sécurité, c'était important. D'ailleurs, les professionnels ont salué le gros travail de Michel Coudray. Et c'est vrai que d'autres départements, et Christian, tu as raison de poser cette question, malheureusement, dans d'autres départements, Christian, ça bouge pas beaucoup.
Deux choses par rapport à ce que tu viens de dire. La première, déjà, le tour du Poitou-Charentes, c'est quand même une belle caisse de résonance. C'est quand même l'épreuve phare de notre région. Enfin, moi, je considère qu'on est toujours en Poitou-Charentes. Hein. Et donc du coup c'est un peu les preuves phares de notre région. Et puis deuxième chose, il y a aussi les conseils de Thomas Vauclair sur le Tour de France qui donne un conseil à chaque étape, donc ça aussi c'est important. Et puis c'est aussi important, j'imagine, que des personnalités du vélo qui sont reconnues comme Vauclair puissent s'investir dedans.
C'est juste ça.
Oui, c'est que il y a d'autres actions qui sont menées sur le territoire, il y a d'autres associations comme Une Route pour Tous, qui mène le même combat, on va dire, pour la sécurité à vélo.
D'accord, ça c'est positif.
Oui, on le voit sur d'autres pelotons. Il y a certains coureurs professionnels qui mènent d'autres actions sur le front, hein, qui en parlent aussi avant le départ des grandes courses. Donc ça, c'est important. C'est pas que Une Route pour Tous, mais le travail de tout le monde à travers le territoire.
Oui, et puis c'est vrai que chez les pros, moi quand j'étais gamin, je regardais le Tour de France, c'était dans les années 90 et on voit les sprints, il y avait pas beaucoup de casques, il y avait plus des casquettes que des casques. Donc c'est vrai que maintenant depuis la mort d'Andrei Kivilev, hein, les professionnels montrent l'exemple en portant le casque. Ça, je pense que c'est une très bonne chose parce que les jeunes s'identifient toujours à on a les Mbappé, on a les rugbymen aussi qui commencent à avoir une belle popularité et un jeune qui arrive du Tour de France, forcément, il pense à Thibaut Pinot, il pense à Bardet, il pense à Alaphilippe. Donc, c'est des modèles et de voir ces modèles avec le casque, c'est aussi à eux de montrer l'exemple et donc c'est bien que le casque soit devenu obligatoire pour tous. Moi, même si ça fait un petit moment maintenant que c'est le cas. Hein.
C'est même devenu un accessoire de mode hein, maintenant le casque.
Oui, effectivement.
Tout le monde veut le dernier casque, celui de Julien Alaphilippe, de Romain Bardet. Enfin voilà, de tout leur grand coureur préféré. Donc c'est bien que ça soit devenu à cette image-là le casque un accessoire de mode.
Et puis il y a même des casques avec des cagoules maintenant.
Oui,
c'est vrai. Donc ça c'est très bien. Là on avance quand même dans le bon sens niveau sécurité à vélo.
Vous écoutez Attitude, vous êtes bien sur le 98.3, 90.7, www.attitudefm.com. Merci de votre fidélité. Nous retrouvons nos invités en studio, Mathieu Dufour, qui répond aux questions de Dédé et de Christian. C'est à vous, messieurs.
Est-ce que tu pourrais, Mathieu, puisque malheureusement Michel n'a pas pu se libérer, nous donner au moins des quelques consignes, puisque les entraînements viennent de reprendre, quelques consignes au niveau de la sécurité pour ceux qui empruntent la route, puisque on n'est pas sur un terrain de sport, on n'est pas dans une salle non plus, et que la route, comme c'est dit, il faut la partager, mais il y a aussi des règles à respecter, que ce soit au niveau des véhicules et au niveau aussi du cyclisme. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques règles importantes aujourd'hui?
Oui, alors déjà, on reparlera de cette petite lumière clignotante rouge, qui permet d'être visible de loin, jusqu'à plus de 300 mètres pour certaines lumières.
Derrière et devant ou juste derrière?
Alors, derrière rouge et devant, on peut en mettre une petite blanche, pour être vu aussi justement sur les petites routes qu'on a, qui ne sont pas forcément à double sens, d'être vu des voitures venant d'en face. Donc ça, c'est une très bonne chose. Éviter les vêtements foncés, en cas de zone d'ombre, certains, hein, si la vision baisse un petit peu, ne peuvent pas distinguer forcément le cycliste sur le bas-côté. Jamais rouler à plus de deux de front, donc ça sert à rien de faire un troupeau au milieu de la route. Hein, on n'ira pas plus vite pour ça. Enfin, c'est sûr, on peut discuter avec les copains, mais c'est pas penser aux autres, ça. Si possible, mettre un gilet avec des bandes réfléchissantes. Il y a des nouveaux équipements de vélo, hein, très jolis maintenant, donc ils sont fluo avec des bandes réfléchissantes. Donc ça serait un point positif. Et puis un grand point aussi, c'est respecter le code de la route. Hein. C'est pas parce que le feu est rouge et qu'on est à vélo qu'on peut avancer. Hein. C'est pour tout le monde. Hein. Donc le stop, c'est pareil. Les priorités à droite, c'est pareil. C'est vraiment important de respecter ça.
Pour conclure sur la prévention, est-ce qu'on peut retrouver l'association de Michel sur Internet, sur Facebook ou sur Instagram? Enfin, où est-ce qu'on peut se documenter?
Eh bien, sur Internet, hein, ils ont leur volet Une route pour tous. On retrouve aussi sur le site de l'UFOLEP, Charente. Il y a tout un volet qui explique toute cette action qui est menée. Et puis, on les retrouve aussi sur nos petits panneaux verts à travers la Charente.
Pour revenir au projet de cette année 2023... On a parlé de l'épreuve junior qui aura donc lieu l'après-midi avec certainement plus de 60 participants avec quelques grandes équipes venant du national. Le matin, il y a aussi une matinée qui sera dédiée au vitrage. Est-ce qu'on peut d'abord, que veut dire le vitrage? Le vitrage, excuse-moi Mathieu, et à quoi consiste ça?
Oui, on a décidé en fait d'allier en fait la jeunesse l'après-midi et la rétrospective avec le vintage le matin. C'est un souhait parce qu'on a une épreuve un peu historique, hein, 76e édition cette année. C'était aussi un projet qui va être mené par Raymond Payot, grand fan du vintage. On voulait vraiment avoir notre petite note et amener du public à participer à cette journée-là. On soit pas juste présent pour une course et après tout le monde remballe. Voilà, les gens qui vont venir le matin pourront manger sur place et assister au départ de la nationale l'après-midi. Alors, ça consiste en quoi? En fait, c'est ouvert à tout type de vélo, principalement vintage, hein, les vélos anciens de nos des grands coureurs qu'on peut connaître certains membres, ouvert à tous, sans licence. Enfin voilà, on veut vraiment que ça soit un moment de plaisir. Donc il y aura trois parcours différents. Le premier parcours, ça va être tout simplement le parcours de la nationale junior. Donc 11 km 900. Vraiment ouvert à tous, hein, ça je tiens à le préciser. On attend vraiment tous les amoureux de la bicyclette qui veulent justement découvrir un peu cette ambiance. Donc ça, trois parcours. Après, on va jusqu'à 38 km pour le plus grand. Et tout ça, si possible, en tenue d'époque. On aimerait bien avoir le plus grand nombre de personnes en tenue d'époque avec vélo vintage. Et on va aussi accueillir de véhicules anciens.
Bon, ce sera du coup une sorte de remake du circuit des remparts version Nersac et version Deroux, et puis un hommage aussi à nos aînés comme Lucien Petit-Breton qui ont pu gagner le Tour de France bien avant que tout le monde soit né ici.
Voilà, c'est ça. Faut pas oublier tout ce qui est passé, même par notre épreuve. Hein. On a vu beaucoup de grands coureurs passer à Nersac, donc voilà, c'est une façon de rendre hommage à tous ces grands coureurs.
J'imagine que Dédé a sûrement quelques noms à nous. Quels sont les grands coureurs qui ont eu le privilège d'escalader cette côte du Peuf?
Ah, il y en a eu, oui, il y en a eu. Il y a eu Jean-Pierre Parenteau, il y a eu Simonon, il y a eu bien Larp, également Michel Larp. Il y a eu, oui, le premier vainqueur, c'était en 1951, je crois que c'était Albert Dunord. C'est lui qui a remporté la première épreuve. Et puis il y a eu des Salmons, il y a eu des malheureusement des gens qui ne sont plus là malheureusement, et c'est vrai qu'ils vont nous manquer le matin de l'ascension. Mais oui, ça doit être une sacrée organisation. Je pense que Raymond déjà travaille dessus, et voilà. Donc après les surprises, je pense qu'on les aura le matin même, Mathieu, non?
Oui, tout à fait. Mais je pense qu'on aura du monde. On invite aussi tous les Nersakais à sortir de leur maison, à venir partager avec nous tout ça. Comment dirais-je? Moi, je veux vraiment qu'on l'associe à. C'est notre journée vélo. On rend hommage, on fait place à la jeunesse l'après-midi. Tout le monde passe un bon moment. Enfin, je mise vraiment sur une belle journée, quoi.
Combien de temps il faut pour préparer un tel événement?
Eh ben là, ça fait déjà 3 mois qu'on est sur le dossier de l'ascension.
Sachant qu'en plus, là, on est au mois de février, donc c'est au mois de mai, donc il reste encore trois mois justement. Donc grosso modo, une demi-année pour tout filer.
Ouais. J'irai même un peu plus parce qu'on aimerait bien être prêt pour les années suivantes. Je vais dire septembre-octobre, parce qu'en fait, les équipes font leur planning octobre-novembre.
Oui, donc il faut déjà avoir la date de prévu bien en avance au final.
Donc voilà, on aimerait bien avoir une visibilité bien avant leur calendrier, comme ça, ils pensent à nous et puis ils mettent ça sur leur calendrier.
D'ailleurs, c'est aussi le combat que, enfin moi, comme je l'ai précisé tout à l'heure, je suis plus proche des clubs de football, et c'est aussi le combat que mènent les clubs de football, ceux qui organisent des tournois de jeunes, c'est-à-dire qu'en fait ils lancent ces invitations aux clubs professionnels, mais le problème c'est qu'il y a plusieurs tournois qui sont calés sur les mêmes week-ends, donc compliqué d'avoir parfois des bons plateaux. Est-ce que vous, au niveau de cette course junior, est-ce qu'elle fait partie d'un circuit, ou est-ce qu'il y a de la concurrence en France ce week-end-là? Enfin, comment vous gérez tout ça?
Cette année, on a la chance, on n'est pas trop en concurrence sur le territoire. Après, on a aussi, grâce à tous nos partenaires, hein, donc on va citer le département, le Grand Angoulême, la région Nouvelle-Aquitaine, la mairie Nersac de Saint-Michel-la-Couronne, en fait, on aide les équipes à venir chez nous, financièrement.
D'accord.
On a mis en place une enveloppe, en fait, avec un barème kilométrique aussi. Voilà, on les aide parce qu'on sait que c'est dur pour tous en ce moment. Donc voilà, on donne une participation financière aux équipes venant de loin.
Et d'ailleurs, on peut citer un peu, donc il y avait trois Charentais l'an dernier, mais c'est des coureurs qui venaient de toute la France. Il y avait des nordistes, enfin d'où venaient ces coureurs grosso modo?
L'année dernière, on a eu deux nordistes, dont mon petit cousin qui était encore en junior l'année dernière. On est resté un peu quand même dans un secteur limité, mais cette année, on va pas citer les clubs, mais ça vient de Lyon, Marseille, de Brest, de Paris. Enfin, là, on a vraiment des réponses positives.
L'an passé, c'était une belle course, mais ça veut dire que le curseur au niveau du niveau justement va encore augmenter.
Oui. Ah oui. Oui, c'est ça, c'est mon objectif. Il y aura même encore une autre étape. Hein. On va postuler cette année pour gravir encore des échelons et passer encore un cran au-dessus. Mais voilà, cette année, oui, on va mettre le paquet.
Ce qu'il faut dire également, c'est que l'année dernière, il y avait le Tour de Gironde aussi. Donc, c'était compliqué d'avoir l'épreuve nationale le jeudi, et alors que le samedi, déjà, il y avait le Tour de Gironde.
Oui, c'est ça. Ouais. Après, pour certains coureurs, ça fait beaucoup de courir le jeudi, plus après faire une course à l'étape samedi, dimanche. C'est pour ça, là il tombe avant nous, le Tour de Gironde. Donc c'est vraiment que c'est bénéfique pour nous, on va dire, cette année. C'est là qu'on aura des belles équipes.
Quand tu parles de, et c'est très intéressant ce que tu viens de dire avant cette réponse, quand tu dis que c'est une première ou deuxième étape d'avoir cette épreuve nationale, ça veut dire que un cran au-dessus, ça veut dire que peut-être sur un critérium, peut-être, je sais pas, hein, je suppose.
Non, après bon, je veux pas m'avancer sur ce sujet-là, mais mon souhait. C'est pour l'instant il est en état de souhait, c'est de le faire passer au niveau Coupe de France.
Ah, ça serait mon souhait. D'accord, oui, parce qu'il y a une Coupe de France du coup chez les juniors aussi.
Oui, il y a une Coupe de France chez les juniors.
Après, ça regroupe combien de courses environ?
Eh ben en fait là pour l'instant il y a que 5 épreuves Coupe de France junior en France.
Ah oui, donc ça veut dire que vous seriez dans le top 5 6 des courses et ce serait vraiment une belle reconnaissance.
Oui. Ah oui. Après voilà, on n'est pas les seuls décisionnaires, on dépose un dossier, enfin voilà, il y a des gens qui vont venir voir notre épreuve, voilà, ça va passer en commission.
Bien sûr, et puis j'imagine que le budget doit être en corrélation avec le fait de changer de statut aussi.
Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça aussi qu'on veut fidéliser des grandes équipes pour après voilà avoir cet appui de grandes courses, enfin même auprès de nos partenaires. Enfin c'est important pour eux aussi de représenter. Leur investissement.
Mais il y aurait un cahier des charges évidemment importante, mais quand tu parles de sponsors, aujourd'hui, est-ce que Nersac peut dire qu'il a conservé la plus grande partie de ses partenaires?
Oui, on a même intégré un nouveau sponsor il y a 2 semaines, l'entreprise Emro à Nersac, et tout du bâtiment, zinguerie, charpente, placo. Ah oui, donc je suis content de le dire aujourd'hui, on a même un nouveau sponsor, oui. Et puis après, c'est surtout aussi les collectivités. Hein. Ça, je peux que les remercier de ce qu'ils font. Et c'est grâce à eux aussi qu'on peut monter des épreuves comme ça.
Oui,
et
puis c'est vraiment important de faire vivre le territoire sportivement.
Oui, tout à fait. Oui. Comme ça, enfin, ça montre aussi une belle image de la Charente, de faire venir des équipes de toute la France. Voilà, enfin, ça, c'est une vitrine.
D'ailleurs, je fais une petite aparté, mais est-ce que le contre-la-montre qui est organisé par le top 16, je crois que c'est à 12 ans, hein, fin du mois de juillet, est-ce qu'il y aura une édition en 2023? Est-ce que vous êtes au courant de ça, messieurs?
Normalement, c'est reconduit, avec son succès qu'elle a eu l'année dernière.
Ça aussi, c'est important d'avoir une course de ce standing-là pour la Charente.
Ah oui, ça, moi, je pense que avoir des épreuves comme ça, ça va aussi faire rêver, je veux dire, les jeunes. Parce qu'ils ont besoin d'avoir cette petite étincelle d'aller voir une course et que ça nous donne envie de faire pareil. Moi, je fonctionne pareil, hein. Je vais voir une course pro, le lendemain, j'ai envie de monter sur mon vélo. Donc, je pense que c'est important d'avoir une attractivité quand même en Charente. Oui. Donc, c'est pour ça, monter, avoir des courses de renom en Charente, ça pourra que nous aider. On peut le voir dans le Nord, je suis natif de là-bas. Le Nord n'a pas de problème de licencié.
Ah bah oui, c'est même une terre de vélo.
Voilà. Mais parce que justement, il y a toutes ces courses avec la Belgique à côté aussi. Enfin, c'est la culture est comme ça. Et je pense qu'on peut la faire revenir. Hein. J'ai même plein d'idées en tête pour faire la Charente une attractivité pour le vélo. Ouais.
D'ailleurs, en parlant d'attractivité de la Charente pour le vélo, la course la plus connue dans le monde du vélo, c'est le Tour de France. Malheureusement, le Tour de France, il vient pas souvent en Charente. La dernière fois, c'était à Angoulême en 2007. Bon, j'imagine que les clubs en Charente n'ont pas forcément un grand pouvoir sur les tracés du Tour de France, mais j'imagine que vous seriez pas contre le fait qu'ils vous visitent un peu plus souvent.
Ah, on serait pas contre, oui, parce que c'est pas assez. Encore ça, oui, on donne des étincelles dans les yeux des enfants. Mais après, voilà, c'est un coût financier, donc je pense que les collectivités sont peut-être pas forcément prêtes aussi à accueillir une arrivée ou un départ, hein. C'est un tout, hein. On n'est pas les seuls décisionnaires aussi là-dessus, donc
et puis c'est vrai que la dernière fois que le Tour de France est venu, ça a été historique parce qu'on a eu deux arrivées le vendredi et le samedi, et c'était au même endroit, et j'ai rarement vu ça sur le Tour de France, voire même jamais. En tout cas, depuis que je suis.
Oui. Mais bon, on est pas contre avoir le Tour de France qui passe à côté, hein, donc ça fait toujours plaisir.
Mais oui, parce que c'est un peu comme la Coupe du Monde au final. Le Tour de France, ça peut ramener des licenciés.
Bien sûr.
Ah oui, tout à fait. Après le Tour de France, il y a toujours des enfants qui vont aller s'inscrire dans les écoles de vélo à côté. Hein.
Bien sûr.
Bah oui, c'est
sûr.
On construit des petits Mbappé. On peut aussi construire des petits Alaphilippe.
Ah oui. On espère bien en avoir un Ersac un jour.
Ce qu'il faut dire également, c'est que vous avez raison de dire que au niveau du développement du cyclisme en Charente, au niveau des compétitions, il y a une épreuve qui a pris aussi naissance il y a 4-5 ans, c'est le Tour des 4B.
Ah oui, une belle épreuve ouverte aux élites. Oui, oui, tout à fait. Ouais, ça, c'est une très belle épreuve. J'y ai été. Une très belle organisation, un beau plateau. Enfin, c'est une épreuve qui doit encore monter en puissance. Hein. Ça, c'est sûr. Là.
D'ailleurs, il me semble que c'est une course de début de saison, donc ça devrait pas.
Oui, c'est ça.
Elle devrait être dans pas très longtemps, là.
Mars.
Oui, ouais. J'ai plus la date exacte. Ouais.
C'est au mois de mars, c'est la première semaine de mars, ou deuxième, mais bon, voilà, c'est pas très loin maintenant. Et ce qu'il faut dire, c'est que, aussi là, la jeunesse s'y est mise, parce que c'est Benjamin qui a pris ça en main, et depuis, cette course devient importante et intéressante pour, au niveau national.
Oui, mais c'est important qu'entre jeunes, on arrive à prendre la relève des personnes qui ont œuvré à toutes ces épreuves, au cyclisme en Charente. Donc, c'est une passation un peu. Donc, on doit honorer tout ça.
J'en profite d'avoir le nouveau président de Nersac Vélo avec nous. Parle-nous un peu de Raymond Payot, qu'on a aussi accueilli avec plaisir dans les studios d'Attitude à de multiples reprises. C'est un personnage en couleur. Parle-nous un peu de lui et puis surtout de l'importance qu'il a eu pour le club.
Oui, ça a été avant tout un grand coureur quand même. Il y a eu des grandes victoires à son actif. C'est une personne avec qui on a été un peu en lien quand même. Bon, je suis pas si vieux que ça dans le club de Nersac, hein. Donc j'ai pas des grands contacts avec tout le monde avant, mais quelqu'un de très très disponible, vraiment axé sur le plaisir. C'est ce que je peux dire de Raymond. C'est vraiment le vélo plaisir, prendre du bon temps avec les uns les autres. C'est une bonne image que je veux garder. Et c'est pour ça qu'on a cette épreuve la vintage, je dis l'ascension.
Oui.
C'est aussi pour partager, parce que c'est avant tout ça, hein, qu'on veut, hein, dans un club, c'est la convivialité. Donc moi, ça serait ça pour définir Raymond. Après, il a fait de très bonnes choses pour le club, et c'est pour ça que je me dois de continuer l'aventure.
Comment s'est passée la transition? J'imagine qu'il est toujours au club et qu'il reste proche de des adhérents et puis du nouveau président. Comment ça s'est passé un peu la passation de pouvoir, la transition entre lui et toi?
Eh ben, très bien. Ça s'est super bien passé. On s'était rencontrés. On avait mangé ensemble chez lui pour justement discuter un peu de ce rôle de président, parce que je n'avais jamais été président tout court, donc pour apprendre un peu tout ce qu'il y avait besoin, voilà, me transmettre un peu tous les petits filons à savoir, et puis ça s'est passé lors de notre assemblée générale. On a échangé notre place, lui dans le public et moi au bureau. Voilà, très bien, un très bon moment.
Ce qu'il faut dire sur Raymond, c'est que c'est quelqu'un, franchement, qui c'est bien dit par Mathieu, qui est quelqu'un de qui sait lier le lien entre tout le monde. C'est quelqu'un qui a aussi innové dans le club de la Sénersac. C'est quelqu'un qui, on peut évidemment se reposer, parce que c'est quelqu'un qui franchement est toujours à l'écoute, il prendra jamais une décision personnelle, Et oui, c'est quelqu'un, enfin franchement, moi, je sais que Raymond restera beaucoup dans mon cœur, parce que c'est quelqu'un qui, même si on n'est pas à côté, c'est quelqu'un qui prendra des nouvelles, qui vous aidera, franchement, il prendra sa voiture pour vous emmener sur une course de vélo si vous n'avez pas les moyens. C'est quelqu'un qui, c'est un monument, Raymond. Il est connu au niveau du département, de la région, et c'est vrai, où l'on passe, ben ils connaissent tous Raymond Payot. Il a fait des choses à Saint-Cloud en revenant sur l'histoire. Du critérium, oui, c'est l'histoire, c'est l'histoire. Voilà, je voulais rajouter ce petit mot parce que franchement, oui, quand il a quitté la présidence, ça fait toujours quelque chose. Voilà, on est obligé de penser à tout ce qu'il a fait.
Bon, et un Payot peut en cacher aussi un autre. Il y a aussi Johan Payot,
oui, exactement. C'est vrai, Christian.
Qui est aussi important pour le cyclisme départemental. On parlait tout à l'heure de rayonnement de la Charente. On a quand même un Charentais, au moins un, dans les rangs professionnels, et c'est important que notre département soit aussi représenté à ce niveau-là.
Ah oui, ça c'est sûr. Oui, on a besoin de pouvoir en Charentais à haut niveau. C'est pour ça qu'il faut qu'on axe sur la formation de nos jeunes. Enfin, faut qu'on soit présent pour détecter aussi les talents de demain. Donc c'est le boulot de tous les clubs, hein, d'être présent du plus petit au à l'adolescent, enfin voilà. On doit les former, c'est notre rôle.
Vous écoutez Attitude, vous êtes bien sur le 98.3, 90.7, www.attitudefm.com. Merci de votre fidélité. Nous retrouvons nos invités en studio, Mathieu Dufour, qui répond aux questions de Dédé et de Christian. C'est à vous, messieurs.
C'est vrai que moi, j'avais fait un reportage il y a une dizaine d'années de ça, alors ça remonte un petit peu, par rapport au Vélodrome des Alliés à Angoulême. Alors je sais pas si le département s'en sert toujours, mais c'est vrai que c'était aussi un bel outil pour le cyclisme, et j'imagine que le club du Grand Angoulême, on espère forcément que cet outil pourra être rénové et servir à nouveau. Quelle est un peu ta position là-dessus? C'est toujours intéressant d'avoir de beaux équipements à disposition pour former ces jeunes.
Oui, c'est sûr. Alors moi je suis pour un vélodrome, hein, parce que même pour les enfants, pour débuter des activités, c'est un endroit en sécurité.
Bien sûr.
Pour les plus grands, c'est un moyen d'entraînement l'hiver. Enfin, ça a beaucoup d'atouts, un vélodrome. Ça permet aussi de diversifier un petit peu, pas être que sur les routes. Enfin voilà, se bagarrer un petit peu sur le vélodrome entre nous, faire des compétitions. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir en faire des séances sur le vélodrome de Roubaix.
Ah, bon, en plus, il est mythique celui-là.
Voilà, tout à fait.
C'est pas le moins connu.
Et donc moi, je pense qu'avoir un outil comme ça nous aiderait aussi à nous redévelopper en Charente pour le vélo. Oui.
Mais malheureusement, je pense que ça va être compliqué.
Oui, après c'est un budget, c'est un coût à remettre en état, ou même s'il y avait un projet d'un nouveau vélodrome couvert. Enfin, c'est vrai que les collectivités ne peuvent pas se subir comme certaines communes plusieurs millions d'investissements dans un vélodrome. Donc bon, j'espère qu'il y aura quelque chose qui sera fait pour ce petit vélodrome, même s'il reste ça en l'état, rénové. Enfin, moi je vois ça que en positif.
Bien sûr, et puis c'est aussi un investissement pour l'avenir, pour la jeunesse, et c'est aussi pour garder un peu de vélo dans notre petit coin de paradis.
C'est ça. D'ailleurs, faut souligner que notre vainqueur l'année dernière à la nationale junior est devenu champion d'Europe sur piste.
Ah oui, donc on parlait tout à l'heure d'anciens coureurs de renom qui sont passés par la Côte du Peu. Il y a aussi des futurs pépites, des futurs cracks qui sont passés.
Il a intégré le top 16 cette année. Donc ça, c'est sympa. On a eu aussi un jeune qui a intégré une équipe continentale. Donc c'est vraiment le dernier palier avant de venir pro. Donc
tout à fait.
Ça fait plaisir de voir ça.
En début d'émission, tu nous disais que tu avais aussi des projets, des idées pour l'avenir. Alors, sans forcément tout développer, quels axes globalement d'idées tu as pour l'avenir du club du Côte de Nersac?
Déjà, bon, c'est passer cette épreuve vraiment au niveau où elle doit être. Après, l'école de vélo, hein, moi, pour moi, ça va être l'axe qui fera prendre un tournant à notre club. Après, il y a d'autres choses, hein, créer peut-être une course mythique, mais ça, ce sera pas que le boulot de Nersac. Je pense qu'il faudrait que ça soit un boulot de tous les clubs, mais une course un peu mythique en Charente. On a une course dans le Nord là qui s'appelle la Pével Classique. qui est en train de monter en puissance d'année en année, qui est passé justement en Coupe de France. Cette année, ils ont déjà 60 demandes d'équipes étrangères pour venir participer à leur épreuve. Donc, c'est ce qui fait la spécificité, c'est voilà, c'est qu'ils empruntent les pavés du Paris-Roubaix. Donc,
oui, c'est nous, une course senior ou c'est une course jeune?
Non, junior, ouais.
Ok, d'accord.
Junior. Donc, ils sont à pratiquement 150 partants l'année dernière, je crois. Ça serait sympa qu'on ait quelque chose aussi de ce niveau-là, ou avec une spécificité, peut-être. On pourrait s'apparenter à la Strade Bianche, une course professionnelle. Oui. C'est dans des chemins blancs. On a des beaux chemins blancs dans le Rouillaquet, enfin un peu partout en Charente, entre les vignes. Quelque chose, voilà, qui soit atypique, enfin qui attire le monde. Et j'aimerais bien qu'on développe ça, mais on pourrait pas le faire qu'avec l'équipe de Mersac.
Oui, possible. Tout à fait. C'est vrai que c'est un projet qui est hyper ambitieux.
Oui, c'est ça. Et puis après, ça pourrait peut-être être.
Et puis c'est un projet surtout qui doit être départemental, donc qui doit être validé et puis surtout mis en place par l'ensemble des clubs. Ça peut être un beau projet tous ensemble, oui. Après l'enfer du Nord, l'enfer charentais ou un truc du genre.
Ouais, ça pourrait être ça, mais je pense qu'il faudrait qu'on se motive tous les uns les autres et puis qu'on fasse ça et puis qu'on parle de nous au niveau national et international.
L'avantage de la jeunesse, entre guillemets, c'est que alors il y a aussi l'avantage d'avoir des personnes expérimentées au sein des clubs, hein, ne t'offusque pas à Dédé, mais l'avantage c'est que finalement la jeunesse apporte un petit vent de fraîcheur et des idées nouvelles un peu.
Oui, c'est sûr. Bah, moi-même, je me qualifie encore de jeune, j'ai 26 ans, mais oui, la jeunesse, moi ça c'est motivant. On voit les jeunes à vélo. Ils donnent tout ce qu'ils ont. Oui. C'est impressionnant à voir. Même sur les écoles de vélo, en baby vélo, ils se donnent à 200%. Et ça fait du bien et ça donne envie de se battre pour l'avenir du vélo.
Pour conclure rapidement l'émission, donc tu es président. Est-ce qu'un président ça roule et quel est un peu ton pédigré en tant que cycliste? Donc pas mal. La famille a pas mal était pas mal dans le vélo.
Oui. Alors moi. Je roule moins depuis que je suis président. J'ai jamais été un très grand coureur, mais un passionné avant tout.
C'est important aussi.
Ah ça, oui, c'est la passion du vélo hein, qui m'a fait prendre aussi cette place. Mais oui, voilà. Enfin, j'ai pour but hein, de retourner en compétition cette année. Je m'y prépare dès que je peux, mais c'est sûr, je roule un peu moins. Et après, voilà, il y a toute la vie professionnelle qui fait. Mais voilà. Donc après voilà, moi dans la famille, j'ai un cousin qui roule qui est en junior et qui est maintenant en national 3 parce que bon, il fait ses études en même temps. Et voilà, on a tous été mordus. On va continuer.
Mais forcément, en venant du Nord, on est happé par les flandriennes, que ce soit de l'autre côté de la frontière ou sur les pavés du Nord.
Voilà, c'est ça.
Est-ce que tu as des souvenirs gamin, par exemple, d'avoir vu passer Paris-Roubaix ou des choses, des choses comme ça?
J'ai un souvenir au Vélodrome de Roubaix, hein, vraiment face à la ligne d'arrivée étant un petit, et puis après aller visiter les douches mythiques.
Oui, tout à fait.
Vélodrome.
Avec les noms des coureurs sur les douches.
Voilà, c'est des choses qui restent gravées. Enfin, hein, voir aussi passer le Tour de France, enfin toutes ces choses-là restent en mémoire et puis nous animent.
Ça participe à la passion qu'on a du vélo et au fait de vouloir en faire.
Merci à toi, Christian, d'avoir animé avec Dédé cette émission. Merci à Mathieu, à qui on va dire s'il reste une question qu'on n'a pas posée ou s'il y a quelque chose sur lequel il souhaitait revenir. C'est à vous, Mathieu.
Bon, bah, je tenais à vous remercier pour ce moment. C'est très, très sympathique de découvrir aussi le monde de la radio. Et moi, je vous donne juste rendez-vous le jeudi 18 mai, donc dès 9h30. Vous avez un vélo, venez nous rejoindre. Vous aurez de quoi manger sur place, de quoi boire une boisson fraîche et voir un très grand spectacle l'après-midi avec les meilleurs juniors de France.
Voilà, et puis on sera au mois de mai, il fera chaud, il y aura du soleil et on...
Voilà, tout ça.
Merci beaucoup Mathieu, à très bientôt.
Merci à vous, au revoir.
On se donne rendez-vous au mois de mai.
Attitude, la radio toujours plus proche de vous. Toujours plus proche de vous.